C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Première entrevue, on va parler avec le microbiologiste infectiologue au CIUS de l'Estrie, CHUS et prof à l'Université de Sherbrooke. Je ris un peu parce que plutôt que de dire l'hôpital de Sherbrooke, on a rebaptisé ça dans les grandes structures bureaucratiques et ça donne des fois des résultats un peu bâtards, comme on dit. Mais notre invité est un expert. Il est le microbiologiste préféré de cette émission. Il s'agit d'Alex Carignan. Salut, Alex.
Salut Patrick, c'est vrai que le titre de l'hôpital est pénible.
Écoute, CIUS de l'Estrie, CHUS.
Ouais.
Puis y a-tu Fleurimont là-dedans? Parce que je sais que c'est à Fleurimont.
Ben, on fait les deux, on fait l'Hôtel Dieu aussi, là. Fait qu'on va se contenter. Déjà, c'est assez CIUS de l'Estrie, CHUS.
Bon, parfait. Écoute, il y avait le point de presse aujourd'hui du ministre Dubé, Alex, et il s'attend à une hausse des cas et des hospitalisations dans les prochaines semaines. Tout ça est un peu beaucoup lié au retour en classe, là. Est-ce que le ministre est un oiseau de malheur ou il a raison?
Non, ben au moins, je te dirais que la dernière semaine, là, c'est quand même encourageant. Disons, on semble pas avoir une augmentation exponentielle, mais c'est clair que, disons, le virus est déjà bien présent dès la rentrée. Donc là, malgré certaines mesures qui ont été mises en place, c'est clair et net qu'il va y avoir une amplification au cours des prochaines semaines. Donc, je dirais pas malheureusement que c'est un oiseau de malheur. Je pense que il a raison, mais on peut quand même limiter tout ça, là.
OK. Là, on est dans l'implantation du passeport vaccinal. On sait que c'est symbolique. On sait que ça va être répandu, demandé partout dans les activités non essentielles, Alex. Mais est-ce que c'est un outil qui peut aider à limiter la hausse des cas?
Bien, c'est certain. On a parlé dernièrement qu'il va être plus dur d'obtenir une immunité collective avec le variant Delta qui est plus contagieux, mais on peut quand même, disons, ralentir fortement la croissance du virus dans la population avec un maximum de personnes protégées. On a déjà, là, dans la population adulte, je pense, plus de 80% des gens, donc c'est quand même de bon augure, ça va quand même bien, mais effectivement, chaque personne qu'on peut aller chercher, chaque personne qu'on peut convaincre, parfois, bon, jusqu'ici, on utilisait pas mal la carotte, là, on est rendu un peu plus dans le bâton, mais je pense qu'effectivement, on a besoin de l'implication de tout le monde pour freiner la vague actuelle.
Ceux, Alex, qui ne se laissent pas encore convaincre, là, tu les lis sur Twitter comme moi, là, ils sont très bruyants, il y a beaucoup de gens qui disent « je veux pas me faire vacciner », puis de toute façon, selon ce discours-là, ça marche pas. Hein, le discours qu'on entend, c'est « oui, mais les vaccinés peuvent contracter le virus, puis ils peuvent même le transmettre. Pourquoi je me ferais vacciner? » Ta réponse de gars qui connaît les virus comme le fond de sa poche, c'est quoi?
Bien, ça, c'est clair. Je veux dire, c'est quelque chose que je suis un peu épuisé d'entendre parce que, oui, c'est vrai qu'on peut attraper, transmettre le virus, mais le risque est nettement moindre lorsqu'on est vacciné, autant d'avoir une infection symptomatique que de transmettre le virus. Ça, les études, là, on ne les compte plus, celles qui montrent ça. Puis, je trouve ça intéressant que dernièrement, depuis la semaine dernière, là, le ministère, dans son tableau quotidien, a intégré ça. Bon, par exemple, le risque pour les gens non vaccinés d'être hospitalisés, je pense, près de 30 fois plus élevé. Le risque de contracter la maladie 10 fois plus élevé grossièrement. Donc, ça, je pense que c'est important de marteler ce message-là parce que trop souvent, on entend, bon, oui, on peut l'attraper quand même. Oui, c'est peut-être vrai, mais dans une échelle qui n'est pas du tout la même.
Mais, écoute, moi, je sais, là, comme tout le monde un peu, là, que si on est vacciné et qu'on attrape le virus, ben, on va pas aller engorger les hôpitaux, on va pas développer de complications, généralement, statistiquement. Mais il est prouvé que quand on est vacciné, on a moins de chances de le transmettre aussi, même si on peut le transmettre?
Oui, effectivement. Le niveau de transmission est nettement moins élevé chez les gens vaccinés. Encore une fois, même s'il n'est pas parfait, c'est vraiment de façon très importante. On va vraiment moins transmettre. On a moins de risque d'acquérir la maladie de façon asymptomatique et de le transmettre à d'autres personnes.
Si on n'avait pas les vaccins, au niveau de contamination quotidien qu'on a, on serait dans quelle situation présentement au Québec?
Moi, je pense qu'on serait certainement là de l'ordre de ce qu'on a vu au pic l'an passé, là, probablement 3 000-4 000 cas par jour, et probablement plus parce que le degré de restriction est moindre. Là, actuellement, on a, bon, les masques qui persistent, mais quand même, bon, je prends mon exemple, là, en fin de semaine, je courais les activités de mes enfants, les activités sportives. Je trouvais ça quand même relativement beau de voir toutes ces activités, des tournois, des grandes activités sportives se maintenir malgré le fait qu'on est en pleine pandémie. Mm-hmm. Puis ça, je pense qu'on le doit beaucoup au vaccin aussi. Je pense qu'effectivement, ce qu'on connaît actuellement, ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'on pourrait voir sans la vaccination, avec la même situation, le même nombre de contacts qu'on peut avoir au quotidien actuellement.
Je lisais ton fil Twitter, Alex, avant d'entrer en onde, et tu mentionnais là récemment qu'un des héritages de la pandémie, c'est ce qu'on a appris sur le rôle des aérosols dans les maladies infectieuses. Mm-hmm. Toi, dont c'est la spécialité, qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre?
Ben moi-même, en fait, je dois dire, bon, il y a des gens qui vont dire qu'ils le savaient déjà depuis longtemps, mais je vous dirais que dans les hôpitaux, dans le monde médical, il y avait encore le paradigme là, des grosses gouttelettes que, bon, on transmettait par des grosses gouttelettes dans notre entourage immédiat. C'est vrai que la transmission se fait principalement dans notre entourage à proximité, mais maintenant, on sait vraiment que les aérosols ont un rôle beaucoup plus important. Bon, ça a été peut-être long, en fait, à être implanté, je dirais même dans les hôpitaux. En fait, une pratique qui est conforme à cette connaissance-là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Bon, les experts de la ventilation pourraient vous le dire aussi. Là, ça, je pense que ça va probablement être un des éléments les plus importants, les changements amenés dans la ventilation de nos édifices publics. Ça va pas se faire, évidemment, en claquant des doigts, mais déjà, ces connaissances-là nous permettent, de mieux gérer nos cas au quotidien.
OK. Troisième dose aux immunosupprimés. On a appris que ça s'en venait hier. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est basé sur des données que tu juges probantes?
Oui, bien, ce qu'on a comme données, en fait, quand même, entre autres, une grosse étude qui a été publiée récemment dans le New England Journal of Medicine qui nous montrait qu'une troisième dose chez des patients immunosupprimés. Puis là, en fait, la plupart des données qu'on a sont chez des gens très, très fortement immunosupprimés, par exemple, des greffés d'organes solides. Ces gens-là, lorsqu'ils reçoivent une troisième dose, il y a vraiment une meilleure réponse immunitaire, tant en termes d'anticorps que d'immunité cellulaire. Fait que ça, c'est de bon augure. On n'a pas encore de données sur l'efficacité clinique là dans ce contexte-là, mais je vous dirais que dans ces types de populations-là, ce sont toujours ce type de données-là qu'on a en premier. Donc, je pense que c'est certainement de bonne garde le faire. Bon, ça va être fait, c'est fait déjà maintenant chez nous dès cette semaine. Les Américains aussi optaient pour une approche similaire. Je pense qu'effectivement, c'est encourageant pour les gens qui sont immunosupprimés, qui sont un peu laissés pour compte. Là. Les gens, par exemple, avec le cancer, malgré la vaccination, on savait qu'ils ne répondaient pas tellement bien. Donc, il y a toujours une inquiétude, puis je pense qu'il va toujours en demeurer une, mais peut-être ça peut aider quand même à rassurer les gens qui sont infectés. Mais encore une fois, je pense que ces gens-là doivent demeurer quand même plus prudents au quotidien que la moyenne des gens.
Il y a quelqu'un qui m'écrit, puis ça, c'est un discours que j'entends souvent, qui me dit, écoutez, on connaît pas les effets à long terme du vaccin, par exemple, ARNm, sur un horizon de quelques années. Est-ce qu'il y a des zones dans ce qu'on connaît de ce vaccin-là, Alex Carignan, qui devraient nous inspirer de la crainte à long terme?
Bien, à long terme, bon, d'abord, si on regarde les vaccins en général, il n'y a pas de vaccins, en fait, qui ont démontré d'effets à long terme. Les effets secondaires qui sont liés au vaccin, je dirais 99,9% vont être vus à l'intérieur de 6 semaines suite à l'administration. Puis on a eu l'exemple, par exemple, des thromboses, des myocardites qui demeurent rares, mais qui sont quand même bien présentes. Des effets à long terme, par exemple, donner des cancers, des choses comme ça, ça n'a jamais été observé avec aucun vaccin. Puis pour ce qui est des vaccins ARN, on sait que c'est pas des vaccins qui vont modifier notre code génétique du tout. L'ARN, en fait, lorsqu'il est utilisé par les cellules, après ça, il est très, très rapidement dégradé sur quelques jours. Donc, il n'y a pas d'éléments qui persistent dans le corps, en fait, au niveau du vaccin, au-delà de, c'est ça, de quelques jours. Donc, il n'y a pas d'éléments biologiques qui laissent croire qu'on pourrait avoir des problèmes à long terme, comme c'est le cas avec les autres vaccins.
Je discutais, Alex, en fin de semaine avec quelqu'un qui n'est pas vacciné, une conversation très civilisée. La personne m'a dit, oui, mais écoute, le vaccin, ça modifie notre ADN.
C'est faux, tout simplement. En fait, l'ARN messager n'est pas intégré, en fait, à l'intérieur de nos cellules. Il est utilisé par nos cellules pour produire une protéine. On le compare souvent à un livre de recettes. En fait, on utilise l'ARN pour avoir la recette pour faire la protéine, la fameuse protéine S, que là, notre système immunitaire va monter une défense immunitaire contre cette protéine-là. Comme ça, si on rencontre le virus, on va déjà connaître un peu cette protéine-là. On va être en mesure de réagir plus rapidement, mais ça ne s'intègre pas du tout dans notre code génétique. Ça ne modifie pas du tout notre code génétique non plus.
Merci Alex, toujours un plaisir et toujours très intéressant de t'écouter parler des vaccins.
Merci, au plaisir.
C'était Alex Carignan, médecin et microbiologiste infectiologue à, je vais le dire comme ça, à l'hôpital de Sherbrooke. Donc, on va parler de remèdes alternatifs pour soigner la COVID. Écoutez, on en entend parler depuis des mois, même s'ils sont discrédités. Ces remèdes-là trouvent toujours des adeptes et ils sont toujours poussés, quel hasard, souvent par les mêmes coucous qui sont de l'univers de Donald Trump. Il y a eu l'hydroxychloroquine, dont l'efficacité n'a jamais été prouvée. Il y a même eu l'eau de Javel qui avait été lancée comme ça, comme idée pour soigner, pour nettoyer les poumons. Hein. C'était l'idée de Donald Trump en direct à la télévision. Mais là, la dernière mode, mesdames et messieurs, c'est l'ivermectine. Si vous n'avez jamais entendu parler d'ivermectine, rassurez-vous, vous êtes tout à fait normaux. Aux États-Unis, il y a des gens qui exigent de se faire traiter à l'ivermectine. Ils en achètent, ils pensent que ça protège contre la COVID. Savez-vous où on achète ça, l'ivermectine? Ben, on achète ça là où on trouve des médicaments pour la santé des animaux, chez les vétérinaires principalement. On va parler avec Martin Olivier, il est professeur de microbiologie et d'immunologie à l'Université McGill. Ses travaux portent principalement sur les maladies parasitaires. Professeur Olivier, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
L'ivermectine, ça sert à quoi?
En fait, l'ivermectine, c'est un antiparasitaire, comme on dit, mais qui va cibler les vers, si on peut dire, grossièrement. Et c'est justement dans le monde vétérinaire que c'est beaucoup utilisé ici en Amérique du Nord comme tel. Mais on peut aussi l'utiliser chez l'humain pour certains cas d'infection comme la gale, comme certaines maladies de peau. Mais surtout, ça a été développé il y a plus de 30 ans pour, en Afrique, traiter l'oncocercose, qui est une maladie très grave là-bas, puis qui a été très efficace pour traiter cette maladie-là chez l'humain.
Mais on parle bien de traiter un parasite, donc des vers, pas un virus comme le coronavirus.
Exactement, vous avez bien raison, c'est pour des parasites. C'est pas du tout été développé pour traiter des infections virales.
Là, je lisais qu'aux États-Unis, là, on est passé, là, normalement, là, il y a 3600 ordonnances par semaine pour l'ivermectine. Là, on est passé à 88 000 au mois d'août, OK? Mais on parle bien du médicament qui s'adresse au bétail. Là. C'est ça que les gens veulent prendre.
Oui. Oh non, c'est, moi, je trouve ça, je rigole, mais c'est une aberration. Je ne sais pas si ces chiffres étaient si énormes que ça. Non, ça, je ne comprends pas du tout parce qu'en fait, même les doses données, justement, on dit pour traiter les animaux, c'est des doses, on dit, très, très grandes qu'un humain prendrait. Ces pilules-là, ça va causer justement des effets toxiques que presque sûrs et certains. Parce que les doses utilisées pour traiter les maladies comme anti-helminthique, justement, qu'on retrouve en Afrique, c'est des doses beaucoup moins. Puis c'est oral, puis c'est très efficace, mais les doses données aux animaux de ferme, c'est beaucoup plus puissant.
Là. Aux États-Unis, il y a des gens qui se sont rendus malades à prendre ces remèdes de chevaux, là. Ouais. Comment ça peut être dangereux pour les humains? Quels peuvent être les effets sur notre santé?
Ces doses-là, ça va sûrement... Bon, il y a de la diarrhée, vous allez pouvoir avoir des vomissements. Il peut y avoir aussi, dépendant de la sensibilité des gens et de la quantité qu'ils vont prendre, ça peut être sûrement des problèmes au niveau rénal. Il peut même peut-être avoir des problèmes neurologiques aussi qui peuvent se développer. Ça dépend des fois de la génétique de la personne. Ne pas prendre là, du tout, là. C'est clair.
Écoutez, vous êtes un spécialiste de ces maladies parasitaires. Vous êtes, j'imagine, là, professeur Olivier, une des seules personnes qui, avant la semaine passée, le connaissait, l'ivermectine. Est-ce que ça vous décourage de voir qu'on essaie de prendre un remède de cheval pour traiter les humains alors qu'il y a des vaccins qui sont très efficaces?
Non, absolument, non. Il y a beaucoup de gens, tout ça, il y a beaucoup de gens qui vont tenter d'utiliser leur molécule miracle pour traiter les maladies. Mais l'ivermectine, ça, dans le monde vétérinaire, c'est très connu au Québec. puis dans le Canada, hein, ça c'est sûr. Les gens qui travaillent en parasitologie, comme vous dites, et certains cliniciens qui travaillent sur les maladies tropicales dans les cliniques de médecine tropicale à McGill et à l'Université de Montréal le connaissent aussi, mais on sait que c'est pour des maladies vraiment très précises quand les gens reviennent des tropiques, là.
J'ai vu que aux États-Unis, là, les gens peuvent en acheter sans ordonnance. Il semble-t-il qu'il y a des endroits où c'est possible. Au Québec, là, quelqu'un qui aurait la très mauvaise idée d'aller s'injecter, de consommer de l'ivermectine pour se protéger de la COVID, est-ce que ça lui prend une ordonnance pour y avoir accès?
Oui, absolument. Même un nouveau vétérinaire, il faut qu'un vétérinaire donne justement une ordonnance pour que votre chien soit traité pour les vers du cœur, entre autres. Il faut qu'il y ait une ordonnance. Il ne faut pas aller l'acheter toi-même dans une clinique vétérinaire ou autre. Ça se vend pas en pharmacie directement sur le comptoir. Puis au niveau de l'humain, on dit pour traiter de la gale, là, qui est un parasite qui va dans la peau. Là. Puis en plus, c'est ben, pas oral, c'est topique. À des doses topiques, ça peut être plus élevé, là, mais c'est pas par la bouche. Ça, il faut que tu aies aussi une prescription d'un médecin qui te permet d'aller chercher ça en pharmacie.
Vous êtes un scientifique, là. Vous, votre spécialité, ce sont les maladies parasitaires. Puis je vous le dis, là, je pensais pas interviewer un spécialiste des maladies du bétail en ondes pour parler de coronavirus, mais vous êtes un scientifique, faites des études là-dessus, faites des recherches. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que l'ivermectine est soudainement devenue populaire? À tort.
Ben, ça, c'est souvent basé comme on peut, comme pour l'hydroxychloroquine ou d'autres molécules miracles qui ont été testées à des coûts de millions de dollars, dans certains cas, si on en a nommé. Ça vient de recherches qui souvent ont été faites, on va dire, en culture, dans le laboratoire, avec des cellules simplement infectées avec un virus. Puis ils ont vu que les doses, à certaines doses, étaient capables de contrôler la réplication du virus dans l'éprouvette, disons. Okay? Puis là, il y en a qui ont extrapolé ça, disaient, ben, on va le tester, ça veut dire que ça pourrait fonctionner peut-être pour traiter chez les humains ou autres. Puis sachant que c'est déjà utilisé pour dans certaines prescriptions, comme des maladies parasitaires, des vers, ben, ils ont voulu le tester, mais les doses nécessaires pour rejoindre ce niveau de concentration qui pourrait bloquer le virus, c'est inatteignable. Même avec les doses qui sont contenues dans les médicaments qu'on donne aux chevaux, là, c'est de prendre des plus grandes doses encore pour atteindre ce qui marchait en culture. Donc, les gens vont super intoxiquer. Donc, on ne peut pas y arriver. Là. C'est impossible.
Aux États-Unis, il y a un juge là qui a été sollicité et il s'est rendu aux arguments de la famille d'un malade qui voulait qu'un proche soit traité à l'ivermectine à l'hôpital. Et il a dit, oui, il doit être traité à l'ivermectine, même si les médecins ne voulaient pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ça me fait tomber sur le cul, comme on dirait. Non, c'est de voir comment, moi, je ne peux pas comprendre comment des juges, des avocats, des gens de loi peuvent décider d'un traitement. Parce que se baser sur quoi? Ils font la lecture habituellement d'articles scientifiques dans ce cas-là, mais comment le juge peut avoir justement le background, excusez-moi l'anglicisme, mais pour justement de juger, de voir que oui, on devrait laisser les patients se faire traiter. Je sais pas sur quoi ça a été basé, mais ça, je trouve ça inacceptable de pas comprendre qu'on peut faire passer ça, là.
Fait que votre conseil aux gens qui veulent se protéger contre le coronavirus et la COVID, c'est quoi?
Vaccin, là. Il faut arrêter de niaiser, là. Il faut qu'on se rende à des hauts niveaux pour protéger ceux qui sont peut-être encore, susceptibles d'avoir une infection puis avoir des pathologies plus graves qui amènent à l'hôpital. Mais c'est le vaccin qui. On a des excellents vaccins, il faut les utiliser.
Merci de nous avoir parlé aujourd'hui, professeur Olivier.
Excellent.
Salut.
Merci.
Au revoir. Martin Olivier, qui est professeur de microbiologie et d'immunologie à McGill. Ses travaux portent principalement sur les maladies parasitaire, nous expliquait c'est quoi l'ivermectine. C'est un médicament pour le bétail principalement, pour les chevaux. C'est un médicament qui a beaucoup de gens aux États-Unis qui croient être en mesure de guérir le coronavirus. Donc, plutôt que d'aller se faire vacciner, on vide les étalages des magasins où on vend des médicaments pour les animaux. Donc, c'est ça l'époque. On peut s'inventer des réalités et il y a aussi des gens qui s'inventent des médicaments qui ne fonctionnent pas. Un commentaire, MC?
Ben oui, moi, j'ai entendu parler du ver du cœur. Tu sais, vous avez un chat ou un chien à la maison?
Oui.
Est-ce que vous connaissez quelqu'un, vous, qui a déjà commencé à argumenter avec son vétérinaire en disant « Est-ce que vous avez demandé l'avis de mon chien si ça est tenté de se faire vacciner? D'un coup, qu'on change son ADN? » Ben, faites ça, vous allez voir que votre chien il va vivre entre 6 mois puis 1 an. Bon. Techniquement, il aurait vécu 14 ans. Ce sera tout.
Patrick Lagacé en accéléré.
Ce matin, dans Le Devoir, il y avait un texte saisissant du journaliste Marco Fortier. Ça concerne un cas d'intimidation, une petite fille qui a été intimidée par des camarades de classe. Et il y a une poursuite de la famille contre la commission scolaire Lester B. Pearson. Ça se passe dans le secteur anglais. Et on visait l'école. Pourquoi? Parce que l'école n'a pas agi de façon adéquate pour encadrer, protéger la jeune victime. C'est un rare jugement portant sur un cas d'intimidation à l'école qui montre quoi? Qui montre que les responsabilités de l'école sont bien connues et elles doivent assumer ces responsabilités-là. On va parler de tout ça avec Jennifer Macaroni. Elle est députée libérale, défendresse aussi des élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Elle a deux enfants autistes et elle se dévoue sans relâche pour faire améliorer les services aux élèves qui ont des besoins particuliers. Madame la députée, bonjour.
Bonjour.
Comment vous avez accueilli ce jugement-là ce matin?
Avec une énorme tristesse, puis évidemment bouleversée. C'est vrai ce que vous dites, un tel jugement, c'est rare qu'on entend. Et écoute, ça envoie tout un message à la communauté, ça envoie tout un message non seulement à l'enfant qui est le sujet de l'intimidation, mais aussi aux gens qui l'ont intimidé. Si c'était vraiment un moment où on aurait pu enseigner quelque chose à tous les parties prenantes dans cette situation, parce qu'il faut aussi prendre en considération les personnes qui font de l'intimidation. Mmh. Et j'ai vraiment l'impression que, écoute, on n'a pas creusé, on n'a pas fait nos devoirs en ce qui concerne la protection de cet élève et on n'a pas à faire tout ce que nous pouvions faire pour l'aider. De dire on va de 0 à 100, là, vous êtes victime de l'intimidation, puis tout de suite, on vous envoie dans une autre école, mais c'est pas une solution.
Madame Macaron, c'est ce qui frappe dans la lecture de ce récit-là aujourd'hui, là, c'est justement quand les parents se sont plaints, quand la petite fille s'est plainte, petite fille de 13 ans qui a des difficultés d'apprentissage, elle se présente au bureau de la directrice, elle rapporte ce qu'elle vient de subir comme sévice. Écoutez, on a décidé que c'est elle qui allait sacrer le camp de l'école. Ça, est-ce que c'est répandu?
Écoute, je connais pas la cause intimement, mais je peux dire que après qu'on a validé toutes les autres options, après qu'on a eu plusieurs discussions avec les parents, avec l'élève en question, ça se peut que c'est une solution parce que ça peut être, dans quelques cas, un nouveau départ. Tu sais, c'est un nouveau départ pour l'élève puis la famille, mais il faut jamais oublier que là, nous sommes en train de déstabiliser l'enfant, déstabiliser la famille aussi parce qu'on l'enlève de son école de quartier avec tous ses repères. Fait que oui, c'est un nouveau départ, mais c'est jamais ce qui est voulu. Faut toujours, toujours, toujours essayer de trouver des solutions à l'intérieur de son école.
Mais quand même, ce qu'on lit dans le jugement, c'est que quand la mère se plaint à la direction, ça prend 10 minutes et on en vient à conclusion que la jeune doit changer d'école. Je veux dire, on dirait bien là qu'on a décidé que l'élève qui était intimidé, la victime, c'était elle le problème.
Ouais, non, c'est épouvantable. Ça doit jamais se faire. Faut toujours protéger l'élève en question. Faut toujours être à l'écoute. Faut toujours trouver des solutions et prendre le temps. Faut entourer l'élève en question, surtout que c'est une élève aussi qui a été intimidée, mais souffre des difficultés d'apprentissage. Alors, c'est une élève qui était vraiment en situation de vulnérabilité. Ou encore plus l'importance d'encadrer l'enfant et de venir à son aide. De l'expulser de son école, selon moi, ça n'aura pas été la solution. Ils auront dû vraiment envoyer des professionnels, des services. Et aussi, comme j'ai dit, il faut jamais oublier les gens qui font l'intimidation aussi. Ça leur prend un enseignement. C'était un moment où tout le monde aura pu apprendre quelque chose pour le bien-être de la société. Bientôt, ces élèves vont quitter le réseau scolaire. Mm-hmm. Ils vont être des membres qui vont contribuer à la société. C'est le moment qu'ils doivent apprendre comment se comporter.
De votre siège de députée, Mme Macaron, vous parlez souvent du combat des parents qui ont des élèves à besoins particuliers. Vous avez deux enfants qui sont autistes, je le rappelle. Est-ce que les directions d'école sont équipées pour accueillir ces enfants-là qui ont souvent plus besoin de services?
Mais ça dépend de l'école, ça dépend de prof, ça dépend de l'élève aussi, ça dépend de la volonté de la communauté. C'est impossible de dire qu'on a quelque chose qui est one size fits all. C'est pas ça que nous avons comme modèle. Puis on devrait pas avoir ça comme modèle quand on parle de nos élèves en ayant des besoins particuliers. Cela étant dit, ce qu'on constate dernièrement, c'est qu'il y a un bris de service pour plusieurs élèves autistes et handicapés. C'était pourquoi j'ai déposé un mandat d'initiative qui était refusé, mais le gouvernement a quand même poursuivi avec une étude qui est très parcellaire, mais a quand même démontré que juste le point de l'iceberg, il y a 1500 élèves que eux, ils ont identifiés qui sont expulsés de leur école. Puis pas par choix, mais parce qu'il y a un bris de service, ils sont pas à mesure de venir aider l'élève en question, fait qu'ils sont renvoyés à la maison. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on dit comme message à ces familles? Puis ça fragilise la famille, parce qu'il y a des parents, ils ne peuvent pas aller au travail, il faut qu'ils restent à la maison pour s'occuper de ses enfants, ça cause des problèmes de santé mentale, de la pauvreté. Écoute, je pourrais aller en continuité. C'est pas ça la solution. Il faut creuser plus en profondeur pour venir aider ces enfants.
Je veux vous entendre sur un autre aspect du jugement là, dans le cas de cette commission scolaire qui a été condamnée à payer 30 000 $ à la mère d'une élève qui a été intimidée. C'est quand on la sort de l'école, on lui dit, ben écoutez, à la mère, trouvez une autre école. C'est devenu son problème. Elle n'a pas trouvé d'école. Elle a dû embaucher un tuteur privé. Pourquoi c'est la job du parent à trouver une école?
Ça devrait pas être c'est pas le job du parent. C'est le job de la commission scolaire, c'est le job du siège social de la commission scolaire de venir aider les parents et la famille en question. Puis si c'était une solution de trouver une autre école où l'élève pourrait réintégrer pour recommencer avec un nouveau départ, bien, c'est la responsabilité de la commission scolaire ou le centre de service scolaire de trouver cette place parce que le droit à l'éducation, c'est un droit qui appartient à chaque élève dans la province du Québec. Alors, c'est pas le choix du parent nécessairement de faire ce travail. Est-ce que le parent doit contribuer comme un partenaire? Absolument, parce que c'est le parent qui connaît l'élève le mieux dans cette situation, mais comme collaborateur, pas comme la personne qui devrait entamer tout ce travail. Écoute, ils auront pu aussi trouver des solutions ou peut-être de parler avec une autre commission scolaire pour faire une entente extraterritoriale aussi. Il y aura peut-être plein d'options qu'ils auront pu discuter et parler avec les parents, mais c'est la responsabilité de la commission scolaire de trouver cette solution.
Je veux qu'on parle justement de la commission scolaire Lester B. Pearson. Là. Elle a été condamnée à payer 30 000 $ à cette mère parce que sa direction d'école n'a pas bien géré ce cas-là. Okay? Et là, aujourd'hui, dans Le Devoir, le directeur des communications de la commission scolaire Lester B. Pearson, Darren Becker, dit ceci. C'est là-dessus que je veux vous entendre, Mme Macaron. Il faut faire très attention avant de condamner les actions de la direction d'école, puisque la réalité factuelle de ce dossier est beaucoup plus complexe que ce qui est ressorti de la preuve au procès. Il s'agit de membres de la direction hors pair dans lesquels la commission scolaire a toute sa confiance. Est-ce que la commission scolaire Lester B. Pearson vit sur une autre planète?
Je dirais que c'est clair, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est de protéger leur monde, protéger leur réputation, puis je comprends. Puis rare est les situations qu'on va entendre un tel jugement, surtout dans le réseau anglophone, parce qu'ils sont reconnus pour être très serrés, très communautaires, et travaillent vraiment en collaboration avec leurs parents. Alors, je comprends leur point de vue et je veux pas blâmer nécessairement une personne, mais je dirais ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'au lieu de parler de le bien-être de l'élève, nous sommes en train de parler de le bien-être d'une direction d'école ou de la commission scolaire.
Madame Macaron,
parler de la victime.
Je m'excuse de vous interrompre, mais il y a eu un procès. La commission scolaire a présenté son côté de l'histoire. Le juge a pas retenu ça. Puis là, le porte-parole, il va dire que, écoutez, la preuve ne traduit pas la complexité du cas. Il me semble que c'est arrogant, maudit.
Ben c'est arrogant dans le sens que peut-être ils prennent pas de la responsabilité puis s'il y a un jugement, mais tout à fait. C'est, au lieu de dire, regarde, on n'est pas coupable puis peut-être les gens ont pas toutes les informations puis les faits en ce qui concerne la situation, on devrait parler encore une fois des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer que ça ne se reproduit pas? Voici ce que nous avons appris de ce jugement, parce qu'on veut protéger nos élèves, parce qu'on veut protéger aussi nos directions d'école, on veut s'améliorer. Alors, c'est un teachable moment qui est peut-être un peu perdu.
Vous dites que c'est un moment d'enseignement. Quand une commission scolaire est condamnée à payer 30 000 $ ça frappe l'imaginaire, mais ça fait pas un gros trou dans ses finances quand même.
Ça fait pas un gros trou dans les finances, mais c'est quand même l'argent du fonds public. C'est quand même vous et moi qui sommes en train de payer pour ça. C'est nos impôts qui sont en train de financer ces affaires. Puis il va avoir un impact sur la communauté, il va avoir un impact sur toute la communauté de cette école. C'est bien connu maintenant, c'est dans les médias, c'est bon qu'on en parle parce qu'il faut apprendre quelque chose de cette situation pour s'assurer que ça n'arrivera plus encore et qu'on protège les enfants dans une telle situation. Peut-être potentielle parce que ça va y arriver. Là, on entend un cas, mais ça se peut qu'il y en a plusieurs où les parents sont pas allés aussi loin que ses parents pour protéger leur enfant ou pour dénoncer, pour dire qu'écoute, il y a un problème. Alors, je dirais que ça va être, ce qui frappe pour moi, c'est le message. Beaucoup plus que faut payer de l'argent. Mais ça reste que, écoute, c'est mon argent qui est allé pour payer pour cette affaire-là. Puis on aura pu l'éviter.
Merci, Mme Macaron.
Ça fait plaisir.
Salut, c'était la députée libérale Jennifer Macaron. L'entrevue faisait écho à un papier du Devoir ce matin. C'est un jugement de la Cour du Québec. 29 000 $ qui ont été, auxquels la commission scolaire Lester B. Pearson a été condamnée. On doit verser ça à la mère d'une élève qui a été intimidée. C'est pas la première fois. Il y a eu un cas il y a à peu près 2 ans, là. C'était dans le bout de Granby. Il y a une commission scolaire qui avait été condamnée à payer 70 000 $ pour un cas tout à fait semblable. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont tourmentés par des cas comme ça. Écoutez, c'est jamais le fun un procès, mais les écoles et maintenant les centres de services scolaires là, ont des responsabilités. Ils ont des responsabilités pour encadrer ces affaires-là, sanctionner les intimidateurs. Il y a un protocole à suivre. Si vous estimez que le protocole n'a pas été suivi, ben la solution des fois là, c'est peut-être d'aller voir un avocat. Bon, on va parler des guêpes, MC et Catherine. On en parlait hors d'onde et on constate qu'il y a énormément de guêpes cette année. Elles sont partout. Les gens m'écrivent, il y a quelqu'un là, et c'est très représentatif. Je me suis fait piquer 2 fois cette année, ça faisait 15 fois. La dernière. Kat, tu me disais que manger dehors, c'est l'enfer de ce temps-là.
C'est l'enfer. Pas juste manger, ne serait-ce que boire un verre d'un liquide comme de l'alcool ou une boisson gazeuse.
C'est sucré, là.
Ouais, ça attire les guêpes. Et j'ai remarqué, moi, depuis plusieurs semaines, là, que je veux dire, on peut plus rien faire sans que les guêpes arrivent. Mon chum, moi aussi, s'est fait piquer cette année. L'enflure, il a fallu surveiller pendant 1 heure ou 2. et vraiment, moi, je déteste ça. Je trouve ça insupportable. On m'a donné des trucs, j'en parlerai plus tard on aura la discussion, là, mais il paraît qu'il y a une épice en particulier qui envoie les guêpes ailleurs.
MC, alerte de guêpes?
Ah, la campagne, c'est terrible. C'est parce que avant on voyait beaucoup les...
C'est ça que la fatigante.
Ben oui, elle est arrivée. Avant, on les voyait à l'extérieur. Là, ils se font dans l'entretois et tout. Fait que moi, le truc que je vous donne en premier, parce que là, on s'en va sur l'automne, les guêpes, ça change de nid à chaque année. Fait que attendez, ça sert à rien de détruire. L'année passée, j'ai eu l'idée de génie d'essayer de démancher ça, moi, une
oui, guêpe. Qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, ils sont plus intelligentes que moi, là, parce que je suis monté sur le toit, ça m'a pris à peu près 15 minutes. Mais j'ai commencé, je peux vous dire, je l'ai descendu le toit. Demandez-moi pas comment, mais ça m'a pris 12 secondes à descendre le
toit. Parce qu'elle courait après, elle te volait après.
Oui, puis il y en a 5 qui ont gagné. Mais là, j'ai appris tantôt, Catherine m'a appris un peu sur le tard, que 5 piqûres, paraît-il, qu'il fallait à l'hôpital.
Ben, c'est ce que j'ai lu. J'ai lu ça dans un magazine, mais je voulais juste te dire, Patrick, moi, j'ai déjà vu mon père enlever un nid de guêpe en dessous du balcon. Ils avaient dit, vous entrez dans la maison. On était tous dans la porte-patio. Puis là, il avait mis là, du duct tape autour de son cou avec un casque d'hockey, des gants d'hockey, une combinaison. Puis là, on le regardait dans la cour se promener avec le nid de guêpe à 2 heures de l'après-midi. Chose à ne pas faire.
De toute beauté.
De toute beauté.
Puis un chalumeau, c'est non, parce que tu peux mettre le feu à ta maison.
On va aller parler de tout ça avec Harold Lévy, spécialiste en gestion parasitaire à la maison Maheu. Monsieur Lévy, bonjour.
Bonjour.
D'abord, est-ce que c'est notre imagination ou il y a bel et bien plus de guêpes cette année?
Cette année, il y a beaucoup plus de guêpes. Moi, ça fait 40 ans que je fais ça. Et je peux vous dire quelque chose, c'est la plus grosse année que j'ai connue. Les raisons sont simples. On a eu un hiver très, très doux, ce qui fait qu'il y a eu peu de mortalité chez les guêpes. Et après, un printemps qui était sec, qui était doux, où finalement les nids se sont installés d'une façon importante. Puis après, bon, on a un été extraordinaire pour eux. Sec et très chaud, c'est ce qu'il faut pour qu'ils se développent. Il y a beaucoup plus de nids et les nids sont beaucoup plus gros.
Donc, la clé, dans le fond, pour qu'on ait une population là, correcte de guêpes, que ce soit pas trop fatigant, c'est d'abord et avant tout un hiver qui est assez froid.
Oui. Ben, finalement... Je ne sais pas si vous saviez, mais un hiver froid comme on avait avant, autant au niveau des insectes que des souris, que des rats, que même les petits animaux comme les ratons laveurs, etc., il y a un niveau de mortalité très élevé l'hiver. Et tout ça fait que tous ces individus-là sont pas là pour partir le bal quand le printemps arrive. Oui.
J'ai déjà lu, M. Lévy, que, puis on va revenir au guêpes après, là, mais que ici, sous nos latitudes là, au Québec, là, par exemple, on est assez protégé de certains types d'insectes vénéneux parce que il fait froid l'hiver, mais qu'avec le réchauffement climatique, on risque d'avoir, par exemple, des araignées qu'on voyait pas avant. Est-ce que c'est vrai?
Avec notre hiver, un des très grands chanceux, il y a présentement aux États-Unis plusieurs coins, dans les coins plus chauds, qui sont envahis par des insectes qui viennent de partout à travers le monde. Et dans ces insectes-là, il y a entre autres, il y a une tique là, qui apparaît depuis la tite asiatique qui cause une fièvre hémorragique. Il y a présentement la fameuse punaise, la punaise diabolique dans le moment aux États-Unis qui crée des problèmes effrayants. Nous, notre hiver fait qu'ils ont de la difficulté à compléter leur cycle et c'est on devrait aimer notre hiver. C'est une mal-aimée l'hiver parce qu'elle nous est très utile.
L'hiver, c'est une clôture, dans le fond, contre toutes sortes d'insectes qui sont dangereux.
Tout à fait. Okay. Nous protège beaucoup.
Dites-moi, revenons aux guêpes, là. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se réveille avec un gros nid de guêpes sur notre propriété?
Moi, je pense qu'un nid de guêpes sur votre propriété, un nid de guêpes qui là où il est situé, peut devenir dangereux, il doit être éliminé. Parce que il y a deux risques. Hein. Il y a finalement les gens qui sont allergiques. Et là, ça peut être une mort très rapide, hein, que c'est une question de minutes. Et le deuxième risque, c'est ce que disait Madame tantôt, quelqu'un qui va se faire piquer à plusieurs reprises et peut avoir une quantité de venin assez grande en lui pour le tuer. Rappelez-vous, il y a 4 ou 5 ans, le temps passe vite, c'est peut-être un peu plus que ça, dans la région de Saint-Constant, il y avait une dame qui était maire d'une petite municipalité qui est morte après s'être fait piquer par des guêpes. Elle s'est fait empoisonner. C'était pas un choc allergique. Elle s'est fait empoisonner. Le venin des guêpes est très dangereux. Le truc, c'est qu'on a des petites quantités à chaque fois, ce qui fait que ça va bien. Mais si on avait 10, 15, 20 guêpes qui nous piquent, c'est une bonne idée d'aller à l'hôpital.
Mais à quel moment, c'est quoi le seuil à pas dépasser? C'est-tu 5, 6 piqûres?
Ça dépend des gens.
Ça dépend des
gens. Si j'ai 4-5 piqûres puis je me sens drôle, je suis aussi bien d'aller à l'hôpital. Mais attention, si j'ai une piqûre et je me sens très mal, c'est immédiatement qu'il faut bouger. Parce que là, ça veut dire que c'est un problème allergique et ça pourrait être mortel.
Qu'est-ce qui est plus dangereux, une piqûre d'abeille ou une piqûre de guêpe?
Finalement, la piqûre d'abeille et le venin de l'abeille est plus dangereux et plus important que celui de la guêpe. Sauf que une abeille, elle va vous piquer une fois, puis c'est tout, elle va mourir. La guêpe, la même guêpe, peut vous piquer 5, 6, 7 fois.
OK,
la guêpe finit.
L'abeille, quand elle nous pique, elle meurt.
Oui, tandis que la guêpe, elle peut vous piquer à plusieurs reprises sans problème.
Wow!
Fait que la guêpe finit par être plus dangereuse parce qu'elle est plus agressive aussi. Attention, quand on parle d'agressivité, il faut faire attention. C'est qu'elle est agressive quand on est à 3 mètres de son nid, parce que, je veux dire, on devient un danger pour elle. Si on bouge beaucoup, on est des latins, hein, on a les baguettes dans les airs. Et souvent, un geste qu'on pose pour eux peut leur servir comme un geste agressif, puis c'en est pas. Mais attends, la guêpe, lorsqu'elle se situe dans le champ chez le voisin, ou bien non, très loin, ou dans un arbre très haut, oubliez pas que c'est des pollinisateurs très intéressants et qu'en plus, ils mangent beaucoup d'insectes que l'on n'aime pas. Fait que finalement, ils sont aussi utiles. Mais quand ils sont chez nous, dans notre cour, et qu'ils nous créent un danger, on devrait pas, puis surtout pas faire ce que monsieur a fait, le père et madame. C'est extrêmement dangereux. On doit attendre qu'il fait noir avant de toucher un nid de guêpe. Parce que je veux dire, là, ils vous verront pas. Puis je veux dire, agir rapidement, envoyer quelque chose dans l'ouverture, et se retirer immédiatement, même si on a manqué d'autres coups, on recommencera. Mais puis peut-être que l'idéal, c'est d'appeler des gens comme nous, c'est moins dangereux pour vous. C'est le danger,
Avez-vous un truc, M. Lévy, pour les éloigner? Parce que il y a beaucoup de gens qui nous disent, là, bon, on essaie de manger dehors, les guêpes sont là, y a-t-il un truc de grand-mère qui fonctionne?
Oui, il y a des trucs, mais il faut faire attention aux trucs de grand-mère. Il y en a plusieurs, je pense que les guêpes les ont appris parce que ça les dérange pas ben. J'ai vu là les fameux nids qu'ils ont, là, on met un nid puis puis à quelque part, ils viendront pas à côté. Moi, j'ai vu des nids qui se sont faits sur le nid. Fait que je veux dire, c'est pas très, très efficace. Les nids de guêpes disent aux autres guêpes que tu peux t'installer dans ce coin-là parce que le coin, il est correct, le coin, il est bon, le coin, il est à l'abri du vent, il est à l'abri de la pluie, il est un bon endroit. C'est pour ça que souvent, ils se mettent au même endroit. Parce qu'un nid de guêpes, il dure juste une saison. Les guêpes meurent l'hiver, il reste juste des jeunes reines qui vont sortir du nid, qui vont se refaire un nid à partir de rien l'année prochaine. Le même nid, il finit à tous les hivers, il est fini le nid. Mais un bon truc que moi je fais, c'est pas le paradis, ça promet pas qu'il n'aurait pas. Moi, avant de m'installer pour manger dehors, je leur fais une assiette.
Pardon?
Donc, attends, soyons généreux. Je leur fais une assiette où je mets dedans de la viande, des petits fruits, je mets du sucre, puis je mets de l'eau, puis je mets ça à 10-15 pieds de la place où je vais manger, 10-15 minutes avant de m'installer. Ils vont aller là, et moi je vais être tranquille.
OK, wow, c'est intéressant ça. Pourquoi est-ce
que... Mais je vous dis pas que je n'en ai pas une, non, là, non, mais je vais en avoir beaucoup moins.
Mais qu'est-ce qui fait qu'elles vont dans votre plat à guêpes plutôt que dans votre assiette à steak?
Ben, c'est parce qu'elle était posée avant.
Puis, est-ce que le truc, c'est le sucre aussi?
Le sucre, la viande, c'est ce qu'ils mangent, dans le fond. Ils mangent de la viande, hein? Ils mangent du sucre, ils sont attirés par l'eau. Fait que je leur mets des fruits, puis je leur mets un petit morceau de viande bien gros. Puis je veux dire, je leur mets de l'eau. Puis je les installe à peu près à 10-12 pieds de l'endroit où je vais manger.
Tout ça, M. Lévy, dans le même contenant ou dans des contenants différents?
Ah, dans une assiette.
OK, de l'eau, un petit peu de viande grasse, puis des fruits.
C'est ça.
Mettez-vous du sucre par-dessus?
Pas besoin de mettre des ustensiles, oui. Oui, je mets du sucre dessus.
Vous êtes comme un club med.
Ça mettait pas, c'est pas grave.
Vous êtes comme un club med pour les guêpes, dans le fond.
C'est ça. Moi j'adore les insectes. Hein. Oubliez pas que s'ils n'étaient pas là, on a une espérance de vie qui dépasse pas un an et demi.
C'est
hein,
vrai. C'est vrai. C'est essentiel dans l'écosystème. Dites-moi, oui. ça fait des
ans. À côté de moi.
Ça fait 40 ans que vous faites ça, Monsieur Lévy. Est-ce que vous voyez maintenant des insectes que vous aviez pas l'habitude de voir il y a 5-10 ans?
Oui, ben 5-10 ans, peut-être 15-20 ans, mais oui. Oui, 5-10 ans, oui. La fameuse punaise diabolique que je vous parlais, qu'on commence à voir et qu'on voit de plus en plus souvent. Une guêpe, une punaise qu'on devrait retrouver finalement à la campagne, mais qu'on retrouve en ville. Et la raison, c'est simple, c'est parce qu'il y a plus de gens qui vont aux États-Unis que leurs automobiles et que les punaises en question viennent accrocher après les pièces de l'auto puis qui tombent en ville quand ils arrivent en ville. Mais ils se développent pas, mais on les voit. Vous avez plein d'insectes qui se sont déplacés d'une région à l'autre, qu'avant, il n'y en avait pas dans certaines régions et que présentement, ils sont là. Oh. Il y a 20 ans peut-être, mais la fameuse coccinelle asiatique que l'on retrouve un peu partout à la campagne, il y a des endroits comme dans le coin de Frelsesburg où j'ai des gens qui m'ont appelé, ils ont dit « je pensais que j'avais été victime de vandalisme, je pensais qu'on avait peinturé ma maison en rouge et c'était des coccinelles. » C'était pas comme ça. Avant, nos coccinelles faisaient pas ça. La coccinelle asiatique a pas le choix, compte tenu qu'elle vient pas d'ici, elle a de la misère à passer l'hiver parce qu'elle colle sa maison pour rentrer dans la maison l'hiver. Puis chaque fois qu'il y a un insecte qui vient d'ailleurs, et là, on va en avoir de plus en plus, hein, on commence à voir présentement des insectes qu'on n'a jamais vus ici, là, comme
Oui, allez-y.
La fameuse guêpe asiatique là, qui est énorme.
Oui, le frelon meurtrier ou je sais pas quoi. Là.
En Europe, ça commence à être un problème. Dans le moment, nous, c'est très occasionnel, mais en Europe, c'est un grand problème. Aux États-Unis, ils ont la fameuse guêpe l'abeille africanisée qui tue des gens à tous les ans. On trouve du monde qui cette abeille-là elle a quelque chose de particulier. Lorsqu'elle vous pique, elle laisse un phéromone en vous qui dit à toutes les autres de vous attaquer. Puis elle vous lâche pas. Une abeille, quand vous êtes à 5 pieds d'elle, vous devenez un agresseur, puis elle vous attaque. Elle vous attaque à 30 pieds. Puis l'autre, quand elle vous a fait marcher 2-3 mètres, elle vous a fait courir, elle vous lâche. L'autre, elle va courir après vous pendant un kilomètre de long, s'il faut. Si vous sautez dans l'eau, elle va s'installer au-dessus, puis elle va attendre que vous sortiez pour vous piquer.
Il y a une couple d'années, je parlais à quelqu'un, à une femme qui travaille les fondations des maisons, donc des vides sanitaires. Elle me disait que ce qu'elle voyait, ce qu'elle avait déjà vu, là, qu'elle n'avait jamais vu avant, c'est la fameuse veuve noire, l'araignée.
Oui, mais les veuves noires, c'est pas dans le sol qu'on les voit. Quand on les voit, c'est dans un magasin de fleurs, ou ben non,
au magasin de fruits.
Ça arrive avec les fruits, avec les légumes, avec les fleurs. Ça vient de l'extérieur, comme les fameuses fourmis pharaons qu'on a à peu près depuis 10-15 ans, qui eux autres viennent d'Afrique du Nord, puis ils arrivent avec les épiceries.
Hey, c'est un peu
mondialisation va faire ça, c'est inévitable. Hein?
Merci beaucoup, M. Lévy. C'est fascinant, mais un peu effrayant de vous parler.
Alors, c'est le monde qui nous accompagne, hein? Pas prendre à vivre avec.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé
ce soir. Bye bye. C'est un plaisir.
Harold Lévy, spécialiste en gestion parasitaire à la maison Maheu. Fait que vous avez entendu, préparer une petite assiette pour les abats, pour les guêpes.
Ma collègue Marie-Christine Proux de Rythme FM m'a écrit pour me dire du clou de girofle écrasé un peu dans une assiette serait gagnant.
Écoute, paraît qu'il faut même. Prenez votre café moulu, là, puis faites-le brûler un petit peu. Il paraît que ça les éloigne, semble-t-il.
La Guinness.
Bonne chance à tous.
La Guinness, il se noie sans faire sa marche.
Patrick Lagacé en accéléré. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Never fading with the sunset when the rain set in.
Candle in the Wind de Elton John, qui l'avait remanié à l'occasion d'un triste événement survenu il y a 24 ans, précisément le décès de la princesse Lady Di.
Oui, ça avait été joué à l'église lors de ses funérailles et pour commémorer le 24e anniversaire du décès de la princesse Lady Di, on a décidé d'inviter notre chroniqueur en matière de monarchie, Philippe Audry, la rue Saint-Jacques. Bonjour!
Allô, ça va bien?
Oui. Philippe Audry, t'avais quel âge quand Lady Di est décédée?
Ben, écoute, très jeune, mais pas si jeune que ça. Je veux dire, j'étais pas encore né pour cultiver ma légende, mais en vrai, j'avais 9 ans ou 10 ans. Je me souviens, ben, j'avais 9 ans parce que le 31 août, fait quoi? J'étais à un mois de mon 10e anniversaire, puis je m'en suis toujours pas remis. Je suis encore en deuil.
Comment ça, tu t'en es jamais remis, Philippe?
Ben, c'était la princesse du peuple, hein, Patrick. Donc, c'était vraiment en elle que je me reconnaissais parce que qui n'a pas rêvé de se marier à un prince, tu sais, qui est héritier de la famille, de la couronne britannique et ensuite partir sur la Méditerranée avec un milliardaire égyptien? Moi, c'était vraiment ça que je cultivais.
Mais pourtant, tu fais partie de la monarchie. T'as le nom, t'as les habillements. Je me disais que pour toi, t'appartiens beaucoup plus à la famille royale qu'à une simple roturière qui était Lady Di.
Ben, roturière, mais encore, la famille Spencer, c'était une vraie famille établie au sein de l'aristocratie. Donc, tu sais, quand on dit princesse du peuple, ben, je veux dire, elle a quand même grandi dans un château, puis après ça, elle a quand même, tu sais, elle a quand même fréquenté un milliardaire, puis la légende dit un chirurgien indien, mais je veux dire, tu sais, elle se tenait quand même avec la haute. L'idée de princesse du peuple, c'était vraiment pour exprimer l'amour que le peuple vivait vers elle, mais je pense pas tant que ça qu'elle avait des habitudes populaires. Cela dit, elle a quand même fait beaucoup de choses par rapport à l'éducation de ses enfants, puis son implication sociale, qui ont fait en sorte que le peuple a beaucoup plus adhéré au personnage de Diana, puis à la personne de Diana, que le prince Charles, qui est toujours resté très austère, puis très stérile, très loin de ça. Fait que oui, dans ce sens-là, mais ça a été une personne quand même importante, Diana, mine de rien, dans toute cette dynastie-là, qu'on va dire, le règne d'Élisabeth. Je pense que un des événements, en tout cas, majeurs du règne d'Élisabeth, cette mort-là.
Pourquoi tu penses qu'elle a été aussi marquante dans la famille, outre son décès, là, qu'est-ce qu'elle a apporté à la famille royale?
Ben, premièrement, une fraîcheur, parce que elle exprimait ses émotions, puis je veux dire, elle assumait qu'elle était une femme, parce que les femmes, traditionnellement, dans la monarchie royale, dans la monarchie britannique, étaient tout le temps un peu en retrait derrière le roi. Puis elle a vraiment été, parce qu'on va se le dire, en toute honnêteté, Prince Charles, je veux dire, s'il y avait un concours de beauté, je suis pas sûr que... Là, c'est pas pour être plate, mais je pense pas que je le mets en premier. Comparé à Diana, qui, blonde aux yeux bleus, lumineuse, très spontanée, qui a beaucoup d'humour, je veux dire, on va dire, en bon français, on dit elle a upstagé le Prince Charles, puis ça, d'ailleurs, ça a été une des grandes causes de la jalousie de Charles, mais je veux dire, elle exprimait ses émotions, elle assumait son corps de jeune fille, parce qu'elle s'est mariée, elle avait 20 ans, Donc, elle avait une genre de sexualité, puis c'est pas une hyper-sexualisation, mais elle avait un truc où elle assumait le fait qu'elle était une femme de 20 ans qui aimait avoir du plaisir, qui pouvait être attirée par des gars, qui pouvait avoir du plaisir et qui essayait d'élever ses enfants de la façon la plus populaire possible. Mais c'est encore là, populaire, il y avait quand même une armée de 17 nannies avec elle, mais je veux dire, c'était quand même montrer des émotions face à ses enfants, ce qui était jamais vu. Ouais, c'était pour ça.
Philippe Audry, tu connais ça comme d'autres connaissent le football, comme toi, par exemple.
Ouais.
Tu as une connaissance profonde des rouages de la famille royale. Qu'est-ce qui te fascine là-dedans?
Ben, je pense que tout commence avec une absence de vie sexuelle. Tu sais, c'est vraiment la base. Après ça...
Donc, beaucoup de temps dans tes mains.
Exactement. Exactement. Mais qu'est-ce qui me fait... En fait, sincèrement, c'est parce que je vois là-dedans probablement un téléroman éternel, dans le sens où, je veux dire, le théâtre a été inspiré, le théâtre, par exemple, shakespearien, pour pas le nommer, a été inspiré par ces espèces de jeux de coulisses des familles royales. Puis je vois encore une continuité avec aujourd'hui où... Je veux dire, l'histoire de Diana, ça pourrait être une pièce shakespearienne carrément. Si on décide, en plus, là, je tiens à le dire, je mets des gros guillemets, à la théorie du complot selon, puis j'adore pas cette idée-là, mais mettons que tu décides de croire à ça, ça devient une vraie pièce shakespearienne dans le sens où la princesse plus populaire que le futur roi qui divorce, puis là, elle se fait assassiner par le roi. Tu sais, je veux dire, si c'est ça, ça devient une pièce de théâtre formidable. Après ça, ce qui est le fun, c'est que c'est des gens qui s'habillent comme je voudrais m'habiller, donc ça reste aussi des icônes de mode. Donc, à tous les égards, c'est des modèles pour moi. Puis, ils sont pas spécialement beaux, donc je me reconnais beaucoup en eux.
Mais là,
je vois un modèle d'espoir.
Philippe Audry, l'année prochaine, ça va faire 25 ans. Est-ce que tu penses aller peut-être à Londres faire un certain pèlerinage?
Ben oui, idéalement, si seulement Londres pouvait pas coûter à chaque fois une hypothèque comme une semaine là-bas, mais globalement, je l'ai fait. Puis ce qui est triste, c'est que j'ai été au fameux mémorial, à tous les mémoriaux de Lady Diana. J'ai été à tous les mémoriaux. Ce qui est triste, c'est que je l'ai fait à 20 ans dans la fleur de l'âge de, tu sais, de la découverte de la vie. J'ai vraiment réfléchi, puis je me suis vraiment comme j'ai fait mon deuil pendant au moins 17 minutes au Harrods dans l'escalier, parce que c'est comme proche d'un escalier, donc je me suis recueilli pendant 17 minutes à 20 ans à Londres, ce qui est une sorte d'une tristesse sans nom, mais je serais prêt à revivre l'expérience aujourd'hui. Puis d'ailleurs, j'avais acheté un foulard, ils ont fait un tartan hommage à Diana, j'avais acheté un foulard de tartan à ma mère, qui ne l'a pas porté, fait que ma mère est quand même... Elle m'a envoyé un signal clair que je réalise en onde en ce moment, finalement.
Puis maintenant, est-ce que tu as moins de temps consacré à la famille royale? Du côté sentimental, ça a pris un peu d'espace?
Non, ben oui, mais non. Dans le sens où c'est encore l'objet de discussion avec ma douce moitié. Parce que j'essaie de la tenir au courant, puis c'est étonnant, mais c'est pas tout le monde qui est intéressé par ça. On croirait pas. On croirait pas, là. Je le sais, tombez pas en bas de votre chaise, mais c'est pas tout le monde qui est fasciné par ça. Donc, j'essaie, mais c'est encore très difficile. Il y a beaucoup de chemin à faire. Je pense pas qu'elle m'accompagne pour aller voir la statue de Diana au Harrods de Londres entre deux escaliers mécaniques.
Ben,
mais je vais le faire.
Moi, je te propose une date. Par contre, si ta blonde le permet, c'est qu'on aille voir Spencer ensemble prochainement.
Oh oui!
Et puis, on en fera la critique ensemble. Ça te va?
Ah, oui, je serais vraiment content. Tu sais que j'ai interrompu une conversation avec Michel Tremblay pour lui montrer l'affiche. C'est ça, mon obsession.
Michel,
notre littérature.
Michel, ouais. Le Michel Tremblay,
on est à un café, je lui jase. Là, je dis, hey, Monsieur Tremblay, excusez, il faut que juste, avez-vous vu ça? Puis c'était l'affiche de Spencer. Et je pense que sa politesse a eu autant d'intérêt, sa politesse a eu d'égal l'intérêt qu'il a porté. Intérêt totalement normal, c'est moi qui n'étais pas normal. Mais, c'est dire mon excitation. J'ai interrompu ma propre conversation avec un monument de notre littérature pour revoir une affiche d'un film sur la princesse Diana.
Ben merci, merci beaucoup. Écoute, j'ai hâte d'entendre ta critique du film Spencer sur la vie de Diana.
C'est déjà
Spencer.
5 étoiles.
T'as déjà, avant même de le voir.
Oui, déjà.
T'es un peu vendu. Merci, Philippe Audry.
Ça fait plaisir.
Philippe Audry, la rue Saint-Jacques, il y a 24 ans, la princesse Diana perdait tragiquement la vie.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.